I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant votre épisode de Hex, je voulais vous parler de notre deuxième cerveau, le ventre. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijo, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres à fonctionner un peu mieux. Dijo, c'est une marque française créée par deux amies d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques et autres compléments fabriqués en France. Ça aussi, c'est important, surtout quand il s'agit de produits vivants, parce que oui, les bactéries, c'est vivant. Je vous recommande d'aller voir sur leur site dijo.fr, D-I-J-O. Vous y trouverez un test pour faire le point sur la santé de votre ventre. Et du 13 au 26 mai, vous bénéficierez de moins 20% sur les packs. Après, vous pourrez avoir des papillons dans le ventre. Mais en attendant, il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluza qui l'a monté et mis en musique. Stéphanie est une jeune femme comme je les aime. Solaire, gaie, drôle, bien dans ses pompes. Comment a-t-elle pu, elle, si intelligente, tomber dans une histoire qui lui ressemble tellement peu ? Tout simplement parce que ça peut arriver à tout le monde. Et que dans certains cas, il est bon de se fier, pour une fois, aux apparences.
Alors, nous sommes en 2011, j'ai 25 ans à l'époque et je suis célibataire. J'ai beaucoup apprécié mes sorties avec mes copines. On aime souvent le soir se faire sushi champagne devant des émissions genre L'amour est dans le pré. Mais je comprends qu'effectivement, maintenant qu'elles ont rencontré l'amour de leur vie, les soirées vont être un peu différentes ou moins souvent. Et un jour, je vois une pub à l'époque pour un site de rencontre et il y a une proposition de week-end, je crois, gratuit. Et je me dis, tiens, ce site-là, je ne l'ai pas essayé, je vais essayer. Donc, c'est gratuit, mais on ne peut pas mettre sa photo sur son profil. J'ai quand même accès au chat et je rencontre un garçon qui, pour une fois, a une écriture correcte, un phrasé qui me plaît. C'est pas le wesh princesse, donc je me dis tiens, je lui réponds, mais je suis pas plus impliquée que ça. Donc la conversation se poursuit, des banalités je suppose, et je lui dis bon bah salut, j'ai quelque chose à faire, le chat s'arrête là. Et là le garçon me dit mais j'ai pas tes coordonnées, donc si on veut se recontacter c'est impossible. Lui aussi était en essai, et donc je lui donne mon adresse mail, mais pas mon adresse mail la vraie, en fait, que je dis tous les jours avec mon nom de famille, une adresse mail où c'est un pseudo, en fait. Il a ni mon nom, ni mon prénom. Comme ça, c'est hyper sécurisé. Je vais quand même voir cette boîte mail et effectivement, il m'a envoyé un mail. Lui, dans son mail, il y a son prénom et son nom de famille. Je me dis, bon, bah, il joue franc jeu, au moins, je sais à qui j'ai affaire. Je vais voir le profil Facebook parce qu'on trouve tout avec Facebook. Et du coup, j'ai accès à sa photo de profil, donc la toute petite miniature. Je vois que c'est un garçon, qui a l'air, somme toute, charmant. Il m'envoie des mails très agréables, au plaisir de se voir, si tu veux qu'on sorte, n'hésite pas, etc. Et moi, chaque fois, je lui dis oui, j'ai du travail, oui, je pars en vacances, en clair, donc on chatte en printemps, et l'été, je lui dis toujours pas maintenant. Donc vraiment, je suis pas la fille intéressée. Dans mon appartement, il arrive un dégât des eaux et cela rend mon appartement inhabitable. Donc, retour chez ma mère dans ma chambre d'adolescente, où là, je me dis qu'est-ce que je vais faire mes soirées. Bizarre de retrouver la cohabitation avec mon frère et ma mère. Et donc, je retourne sur ces fameux mails et je me dis c'est vrai, dis donc, ce garçon, je ne vais pas du tout donner sa chance. Je le contacte et c'est le soir en plus de mes 26 ans, donc on est début octobre, et il accepte de sortir, donc on va dans un bar à vin. Je le trouve charmant physiquement, donc il a 5 ans de plus que moi. Il me dit qu'il a un travail, qu'il a des amis, il me parle un peu de sa famille, qu'il va être tonton une deuxième fois. Donc voilà, vraiment très agréable conversation. Par contre, quand je lui parle un peu plus de son travail, je lui demande un peu ce qu'il fait, etc. Il me dit que son patron est désagréable. Il s'épanche très longuement là-dessus et je comprends pas bien en fait pourquoi autant de tracas. Et je trouve ça un peu négatif, sa façon de penser sur ce point. Mais bon, voilà, c'est une première rencontre. On se dit qu'il est peut-être un peu stressé, qu'il a peut-être un peu noirci le trait. Donc la soirée s'achève après avoir parlé jusqu'à la fermeture du bar. Et puis, il m'envoie un message, un SMS, tout de suite, une fois qu'il est rentré chez lui, en disant « au plaisir de te revoir ». Moi, je suis assez flattée, en fait, d'avoir séduit. Il me dit que je suis la plus belle fille de la salle de restaurant, etc. C'est agréable à entendre, hein, vraiment. Qui peut dire le contraire? Et donc, on va au ciné. La soirée après le ciné, il me dit « tu veux boire un verre ? J'accepte. » On prend un digestif. Puis, on finit par s'embrasser voilà, sur le parking du bar, très simplement. Par contre, il me susurre des mots en m'embrassant, j'espère que je me trompe pas. Moi, je le rassure, en disant non, non, aie confiance, je suis une fille sérieuse. Voilà. Il me rappelle, donc je suis toujours très agréablement surprise en me disant, bah, il a une initiative pour qu'on se revoie. Il me rappelle, donc on se voit un jour après. Il me refixe un rendez-vous et il me dit, est-ce que tu veux venir chez moi? Je suis contente parce que je me dis, bah, en plus, voilà, il m'invite dans son appartement. Donc, super, quoi. On apprend à faire connaissance. Il y a des étapes, quoi. Donc, je vais dans son appartement, très bien, il me fait à dîner, on passe notre première nuit ensemble. Mais alors, la première nuit, pas du tout passionnelle, on n'est pas dedans, enfin, je ne sais pas comment dire, le plat total. Comme c'est la première nuit, ça se passe très vite. Je pars le lendemain matin pour un déplacement à Paris. Donc, moi, je suis contente d'avoir passé une nuit avec lui. Mais je me dis pas, oh là là, super, il y a une relation qui s'entame. Je suis assez dans mon boulot à cette époque-là et... comme il n'y a pas eu les papillons, etc., je ne me fais pas de plan sur la comète. Et puis, on se revoit donc régulièrement. Moi, n'ayant pas d'appartement, bah, je suis ravie d'aller chez lui, en fait. Et je pense que lui est ravi aussi de m'inviter, hein, c'est partagé. Il me présente ses amis, ses copains de sport. Je me fais plein de super amis. Vraiment, son entourage me plaît, son entourage amical, en tout cas. Il me présente sa famille aussi. Moi, je fais de même de mon côté. Hein. Et par contre, sa famille est un peu plus perturbante pour moi. C'est-à-dire que c'est une famille où ça crie, sa mère est assez exclusive, etc. Là, c'est un peu plus perturbant. Je me dis, oh là, j'arrive pas du tout en terrain conquis. Et puis, bah, les mois passent, etc. Et moi, ma propriétaire me dit que mon appartement restera inhabitable. Les travaux sont trop importants suite aux dégâts des eaux. Donc, il faut que je trouve un nouvel appartement. Ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble, plusieurs mois qu'on partage des semaines ensemble, parfois son appartement. Et je lui dis, comme lui, il n'y a qu'un petit T1, est-ce que tu veux qu'on habite ensemble? Ou est-ce que moi, je cherche un appartement de mon côté pour qu'on ait chacun nos appartements respectifs? Il ne me répond pas sur l'emménagement ensemble ou séparément. Et donc, étant dans l'immobilier, je lui dis, bah, écoute, j'ai trouvé un appartement à louer au pied du tram, donc on habite Nantes. Et je vois que lui n'est pas du tout emballé. Je ne lui demande pas une réponse sous l'heure, donc je laisse réfléchir. Et je me souviens avoir dit à ma meilleure amie par téléphone, je ne comprends pas, quoi. Enfin, là, j'ai affaire à un mur, quoi. J'ai ni oui ni non. Donc, je finis par lui dire, bah, écoute, si tu ne me réponds pas, moi, je prends un appartement toute seule, hein, parce qu'il n'y a pas de souci, mais il faut me le dire. Et là, je ne sais pas, est-ce que je lui ai mis la pression? Je n'ai jamais su, mais il accepte d'un coup de prendre l'appartement en commun. Donc, on déménage en juillet. On s'est donc rencontrés au mois d'octobre. Le déménagement est un peu explosif. Je me rends compte que sa mère a vraiment un sacré caractère. Même ma mère en rigole en disant « Oh là là, t'as trouvé une sacrée belle-mère, t'es comme moi, t'es gâtée. » Et je me dis, tout le monde l'a remarqué, que je suis gâtée de ce côté-là. Effectivement, bah, se mêle de tout, voilà. Dur à regarder dans les armoires comment sont rangées les affaires. Moi, je suis très polie et je suis pas d'une éducation où je rentre dedans. Donc, je ne dis rien, je fais en sorte que tout se passe bien. Le lendemain du déménagement, premier petit déjeuner en amoureux. Donc là, on devrait être fatigué, mais ravi. Et là, début du cauchemar, c'est-à-dire que je découvre quelqu'un de colérique. Il me fait des reproches très injustifiés. Tu n'as pas aidé, les cartons étaient mal faits, tu n'as pas noté sur les cartons exactement ce qu'il y avait dedans. tu n'as pas assez nettoyé ça, tu n'as pas fait ci, ma mère trouve que ça. Enfin bon, j'étais une avalanche de reproches. Donc ça, c'est en juillet, et en novembre, on rentre du cinéma, et il consulte ses mails, et il n'a toujours pas récupéré le dépôt de garantie de son précédent appartement. Donc l'agence est en retard, certes, moi, comme étant agent immobilier, j'avais passé un petit coup de fil à mon confrère, mais ça s'était arrêté là, hein. J'étais pas rentrée dans ces histoires pour moi qui étaient, somme toute, privées entre lui et son agence. Et il reçoit un mail comme quoi il a une retenue sur son dépôt de garantie, donc il ne retrouvera pas la somme en entier. Et je ne comprends pas de suite que ça le met dans une colère énorme, mais qu'il contient. Il prend une pomme et il la lave, mais il la lave pendant, pour moi, bien trop longtemps. Je lui dis, je crois, mon chéri, que ta pomme est bien lavée, là. Et là, ça a été, je pense, la phrase de trop. Je le vois aller dans l'entrée s'emparer d'une chaussure et me la lancer violemment, c'est-à-dire que c'est une attaque vraiment contre moi. Et là, je suis abasourdie, je me revois accroupie en me disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ?» Donc, je me précipite dans notre chambre pour faire un sac pour partir. Et là, il arrive dans la chambre et bien que je sois plus costaud physiquement que lui, il s'empare de mon cou, m'étrangle et me dit « Si tu me quittes, je te tue. » Et alors là, je crois que mon cerveau déconnecte tellement c'est surréaliste pour moi. Il se met tout de suite instantanément à pleurer. Et je crois que je passe de l'effarement à la pitié. Je lui dis que son comportement est inadmissible, que moi, j'ai perdu jeune mon père d'une longue maladie, etc., que j'ai pas envie d'être malheureuse. Moi, le but dans ma vie, c'est de vivre des moments quand même heureux. Il me dit oui, je sais bien, enfin, d'une façon très, très triste, etc. Et je fais l'erreur de rester et on s'endort comme ça. On continue à vivre comme si de rien n'était, en fait. Je fais comme si de rien n'était. Je n'ai pas souvenir qu'il s'excuse. Moi, j'ai certainement enregistré la peur que ça recommence et je deviens certainement plus docile. Quand on est en sortie, je n'ai pas du tout le même garçon. Je retrouve le Nicolas qui, entre guillemets, m'a séduit, c'est-à-dire le garçon humain, social, qui parle... que j'ai pas vraiment en fait à la maison. Dans la vie quotidienne, c'est quelqu'un qui rentre tous les soirs sans sourire. On dirait que la vie l'use en fait, alors qu'il a à l'époque une trentaine d'années. Il n'a pas de problème particulier en fait. Enfin, moi, je n'analyse pas de problème particulier. Il a une femme, un appartement, un boulot. Le moindre petit souci, c'est-à-dire qu'il doit emmener sa voiture faire une vidange, c'est tout un pataquès parce qu'il doit prendre une demi-journée. Il doit aller chez l'opticien, c'est pareil. Enfin, tout est prétexte, en fait, à se plaindre. Et moi, j'encaisse ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué, sachant que ce n'est pas du tout mon caractère. Donc moi, j'essaye de l'aider au maximum. C'est-à-dire que le garage est à côté de mon travail, donc c'est moi qui emmène sa voiture. Je pars plus tôt le matin, et puis voilà, je la dépose. Moi, il n'y a aucun souci. Je pense que dans un coin de ma tête, je faisais tout pour que la vie soit douce, pour qu'il ne soit pas violent, hein, finalement. Hein, ou... Et puis que lui aille bien, parce que finalement, les sentiments, je pense, sont finis par naître. En tout cas, j'ai de la tendresse, c'est sûr, pour lui. Et je veux qu'il soit heureux, ça, c'est certain. Et puis, il me parle du projet de faire construire, que lui a de l'argent un peu de côté et qu'il veut investir dans l'immobilier. Mais ça fait que quelques mois qu'on est emménagé ensemble. On ne peut pas dire que c'est idyllique. Et construire, pour moi, c'est tout un projet, quoi. C'est une sacrée tranche dans la vie. Et je me dis, ouais, peut-être, oui, mais pourquoi aussi rapidement? Je lui fais comprendre que ça va trop vite. Et puis, quelques mois plus tard, je lui dis, écoute, oui, effectivement, on peut regarder les terrains. Et puis, on en trouve un. Alors, on a mis plusieurs mois. On signe pour ce terrain et j'avais arrêté ma pilule il y a quelques mois de ça, hein, sans lui avoir caché. C'est pas un projet vraiment que j'ai l'impression, finalement, qu'on ait eu à deux. Mais il n'y a pas d'opposition ferme. C'est-à-dire que je lui ai dit un jour, j'arrête ma pilule et c'était peut-être un oui. Moi, du coup, la construction, la possibilité d'avoir un enfant, je me suis dit, c'est peut-être ça, la clé pour de son bonheur et de son épanouissement. Et j'étais persuadée, ou je me suis persuadée, que ça allait le rendre heureux et nous rendre heureux. Donc, on fait construire et juste quand on signe le devis pour la construction, j'apprends que je suis enceinte. pas d'effusion de joie, il déconne juste en disant « Oh là là, on vient de signer pour un gros devis pour faire construire une maison, ça fait beaucoup de nouvelles. » La famille est ravie. Moi, de mon côté, ma mère est plus mitigée. C'est-à-dire qu'elle aime moyennement le personnage. Mais comme toute fille avec sa mère, je lui fais « Oh, maman, c'est bon, c'est mon amoureux, c'est mon choix, etc. » Donc, en janvier 2014, j'accouche de notre petite fille, Anaïs. Alors, il est heureux, hein, mais c'est pareil, il n'a pas acheté des confettis partout. Et puis, alors, le séjour à la maternité est épuisant. Sa famille, dont ses parents, sont omniprésents, mais H24 à la maternité. Moi, toujours comme d'habitude, je n'ose pas dire les choses en disant « Mais partez, quoi, laissez-moi un peu avec ma fille. » Nicolas choisit de continuer à travailler puisqu'il avait déjà, il m'avait déjà fait le reproche quand j'accouchais que « Oh bah dis donc, t'as mis 20 heures, j'aurais pu presque aller travailler aujourd'hui. » Et il me fait entre guillemets culpabiliser déjà pendant l'accouchement qu'il a raté le travail. Déjà les échographies, c'était pareil, fallait prendre quelques heures sur son travail, c'était beaucoup. Le séjour à la maternité m'épuise, après il y a les travaux qui nous attendent, sa famille toujours très omniprésente. J'ai pas pu choisir... la chambre pour notre fille, hein, c'est-à-dire que jusqu'au lustre, c'est sa mère qui a choisi. Moi, j'ose pas dire non, je suis pris dans les travaux, c'est vrai qu'on manque de moyens à l'époque. Et donc, la maison que je pensais être la maison du bonheur avec notre petite fille qui arrivait se transforme vite en maison du malheur. Alors, Nicolas participe très peu aux tâches ménagères. Ce que j'ai besoin, moi, à l'instant T, c'est un homme qui m'aide à étendre des machines, à vider la vaisselle, à faire à manger. Et là, un soir, épuisé à minuit, je me souviens très bien, en lui disant, peut-être pas très agréablement, mais pour une fois, que je lui demandais quelque chose, est-ce que tu peux étendre la machine, s'il te plaît ? Il finit par étendre le linge, mais tout le linge est étendu, mais traîne par terre. Toujours comme à mon habitude, j'essaye d'être sympa, je lui dis, bah, ça risque pas de sécher comme ça. Et là, il le prend mal. Il est obligé d'extérioriser, en fait, la violence qui est en lui, qu'il a envie d'extérioriser contre moi. Et il me projette le tankerville, donc plein de linge, contre moi. Et moi, je ne comprends pas. Je me dis, si, ça y est, la violence recommence en un quart de seconde. Et j'ai peur pour ma baie vitrée qui est toute neuve, de ma construction qui est toute neuve, en me disant, oh là là, si le tankerville tombe sur la baie vitrée, ça va faire un éclat. Comme quoi, on a vraiment des idées bêtes parfois. Le schéma est toujours le même, c'est-à-dire qu'il se met à pleurer, j'ai pitié, je fais comme si de rien n'était. Moi, je me sens très triste parce que je me dis, on a une petite fille, un petit bébé dans la chambre qui dort. Et je me rends compte que c'est triste à dire, hein, parce que j'adore ma fille, hein, plus que tout. Mais je me dis, on a peut-être fait une erreur. Le week-end d'après, on est de mariage dans sa famille. Il faut faire, malgré la fatigue, malgré le fait qu'il me tape et qu'en plus, il n'a aucune attention pour moi. Alors, je ne dis pas qu'il faut taper et après être gentil. Mais en plus, j'ai même pas de gentillesse, donc ni d'attention, ni d'aide pour faire la valise. Les bagages sont plus compliqués à faire, hein, on part plus tous les deux. Et en plus, on est de mariage, donc il faut prévoir les tenues, etc. Tenues que j'ai toujours pas pu choisir, c'est-à-dire que ma fille est habillée par ma belle-mère, ma nièce aussi est habillée par ma belle-mère, c'est-à-dire que moi et ma belle-sœur, nous ne pouvons pas choisir ce que nous mettons sur nos enfants, puisque ce sont ses petits-enfants et elle fait comme si c'était ses enfants. Et ma belle-sœur est excédée comme moi, mais elle est comme moi, elle ne dit rien, puisque je crois que ça crée des tensions elle aussi dans son couple. Et on n'a pas envie de rajouter de l'huile sur le feu. Donc on part dans ce mariage, on fait toutes les deux, voilà, devant notre belle famille, bonne figure. Et quelques semaines plus tard, je reçois un texto de ma belle-sœur qui me dit « Je suis désolée, je te laisse toute seule, mais je pars. » Et je crois comprendre qu'elle aussi se fait frapper par le frère de Nicolas et... Je pense qu'elle est aussi excédée par la vie de famille que nous fait mener notre belle-mère. Et donc, son texto me touche beaucoup, parce que là, je me dis, ça y est, je suis seule. Je pense que je suis rentrée aussi dans un système où je protégeais mes proches, je protégeais Nicolas, je protège l'image de Nicolas. Et en fait, la dernière à être protégée, c'est moi, et je me protège pas du tout. Mais je fais en sorte que toute cette petite famille aille bien. Je fais en sorte de rendre très heureuse ma belle-mère en lui envoyant le plus possible des photos de sa petite fille, en l'invitant le plus possible à la maison, mais elle non plus n'est jamais comblée. Et Nicolas, pareil, n'est toujours pas comblé. Et je m'épuise en fait à essayer d'être la fée du quotidien pour que tout soit gai et en fait ça ne l'est pas du tout.
Il m'a tapé le premier été. Après, il m'a tapé donc à la Saint-Valentin. Et après, il m'a frappé à la fête des mères, donc qui était la première fête des mères pour moi. Et je me souviens lui avoir dit très clairement, les seuls petits bouts de bonheur, moi, dans ma vie, c'est-à-dire une fête des mères, quand c'est la première fois qu'on est mère, c'est quand même quelque chose, même si votre enfant ne vous offre rien, mais c'est le principe. Je lui dis, mais même ça, tu me l'enlèves, quoi. Et lui, il ne s'excuse pas, hein. Il acquiesce, en fait, mais la conversation s'arrête là. Après, la violence cesse. Le quotidien n'est pas plus gai, hein. Il est toujours aussi perturbé par le moindre petit rendez-vous. Alors, il n'a pas changé de travail, hein, mais il s'en plaint toujours autant. Ça va faire plus de 10 ans qu'il est dans la société, mais tout va mal. Ses collègues sont cons, ses patrons sont cons, c'est mal géré, etc. Il est mal payé, mais il y reste. Quand on est avec les amis, la famille, on joue au couple modèle. Et d'ailleurs, je rentre dans son jeu. C'est-à-dire que quand sa famille est là, il donne le bain à Anaïs, il lui donne le petit pot, etc. Vraiment, le père investi. Alors que dans la réalité, je ne dirais pas qu'il n'aime pas sa fille et qu'il n'est pas investi, mais c'est très, très édulcoré. Et ensuite, après toutes ces violences et cette première année après la naissance d'Anaïs très difficile, donc les violences physiques cessent, mais bon, Nicolas reste quand même Nicolas, et moi je pense que je mets beaucoup d'attention dans le quotidien pour que tout ça tienne. Et ça y est, j'ai 30 ans et je pense à un deuxième enfant, parce qu'Anaïs a 2 ans et demi. C'est vrai que dans l'image de la famille parfaite, mais qui n'est pas la mienne, hein, je trouvais qu'avoir des enfants rapprochés, c'était pas mal. Je lui en parle d'ailleurs, pareil comme pour Anaïs, il y a ni oui ni non. Je tombe enceinte de Gaël, qui naît en juillet 2016. Un petit bébé pour moi, bonheur. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit garçon. Et là, une fille et un garçon, vraiment, comme on dit, le choix du roi. Et je suis ravie. Nicolas était beaucoup moins investi dans la grossesse. Je me rappelle qu'il loupe une échographie. Je n'en tiens pas rigueur. Et pareil, à la maternité, il ne s'arrête pas. Hein. Il ne prend pas ses 3 jours pour rester présent à la maternité. Hein. Il préfère travailler. Il vient par contre le soir. Hein, et il ne me parle que de sa terrasse. Que des dalles de la terrasse, que les dalles du jardin. Et je me vois lui dire, va au magasin de bricolage et va voir tes dalles. Parce qu'il était sur son téléphone, il ne parlait que de ça. Et je pensais qu'il allait comprendre en disant « Bah non, je reste avec ma femme et mon fils. » Et non, il va au magasin de bricolage et au magasin de bricolage, comme il est excessif, il continue à m'envoyer des messages « Ah, il y a des dalles, machin. » Il comprend pas en fait que moi, je suis pas du tout là-dessus, quoi. Donc, c'est l'été et lui a décidé d'utiliser ses congés paternité pour faire sa terrasse. Je pense que pour lui, c'était peut-être ça, être père. Et là, il me dit « on reçoit jamais, on sort jamais », ce qui est fou, on a une vie quand même sociale très, très développée, surtout que c'est souvent moi qui suis à l'initiative de sortie, etc. Voilà, j'ai un bon réseau d'amis. Lui aussi a un réseau d'amis, mais c'est pas lui qui a l'initiative en fait, de les inviter, par contre. Donc en fait, moi, toujours pour lui faire plaisir, alors que j'ai un petit garçon qui vient de naître et pas d'aide à la maison, j'invite à bras-le-corps les voisins, ses copains, ses collègues. Sa famille. Alors, bien sûr, je dois préparer le repas, faire le ménage après, gérer les enfants, puisque pour Gaël, comme pour Anaïs, mais surtout pour Gaël, il ne se lève pas une nuit, il ne lave pas un biberon. Je suis épuisée, physiquement, moralement, je suis épuisée. Et je lui dis, un jour, je lui dis, mais tu as été 1 mois et demi avec nous, tu ne t'es pas levé une fois, tu n'as pas fait les bagages une fois pour aller à la plage. Tu n'as pas lavé un biberon. C'est rare, mais c'est pour une fois, je lui faisais un reproche. D'habitude, je ne lui en faisais jamais, puisque j'avais toujours peur de la violence. À la maison, on ne se disputait pas, parce que même quand il y avait des choses qui ne me plaisaient pas de sa part, je n'osais pas le dire, puisque je pense que j'étais soumise. J'étais plus la bonne poire, j'étais carrément soumise. C'est-à-dire que le soir, il appelait sa mère tous les soirs, pratiquement à 20h, puisqu'elle regarde une émission de la 2, sinon, et qu'il ne faut pas la déranger, mais que lui, ça ne le dérangeait pas d'appeler ses parents. Alors que nous, on dînait avec sa fille hein, et son fils. Hein. Comme si nous, on n'existait pas, en fait. On n'était pas important. Il me blesse profondément quand je lui dis qu'il a été là pendant 1 mois et demi, qu'il n'a rien fait. Il me dit « Moi, je suis en congé, moi, madame. » Tous les efforts que je faisais depuis toutes ces années pour lui montrer que j'étais une femme formidable, qu'il l'aimait, etc. Je me suis sentie, ben, faut le dire le mot, comme une merde. Et je pense qu'il a voulu me rabaisser, d'ailleurs, à ce moment-là, et qu'il a réussi. Et elle, avec... quelques mois, quelques semaines, je me suis dit non, c'est fini, faut arrêter Stéphanie, à un moment donné, c'est plus possible. Ce qu'il faut dire, c'est que j'avais essayé de partir au tout début là, des violences après la Saint-Valentin abominable et la fête des mères abominable. Tout était chargé dans le monospace, le lit parapluie pour que je parte avec Anaïs. Mais il m'avait retenu physiquement et menacé encore de mort. Et je pense qu'en tant que mère, j'avais peur pour ma fille et moi et j'étais revenue à la maison. Il m'avait vraiment sous emprise dans le sens où tu as essayé de partir de toute manière une fois, tu n'as pas réussi. Et là, moi, je sais qu'avec deux enfants, ça va être encore plus dur de partir en catimini. Lui s'enfonce de plus en plus dans du grand n'importe quoi. Il passe son temps sur son téléphone. Quand je lui dis, il me dit que c'est moi qui suis addict à mon téléphone. Donc, faut rien dire à ça. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait de violence. C'est comme un jeu de cartes, là. Il faut pas que ça tombe, il faut que ça tienne, parce que s'il te frappe, tu pourras pas protéger tes deux enfants. Et je n'ai même pas l'idée, en fait, comme il a toujours joué au Calimero, qu'il puisse me tromper. Alors, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Mais de temps en temps, je regarde son téléphone quand il est sous la douche et je vois toujours le même numéro apparaître qui n'est pas enregistré dans les contacts. Aucune preuve flagrante, en fait, qu'il est en couple avec quelqu'un, aucun mot spécial. Un jour, par contre, je tombe sur une page Facebook et je me rends compte, parce qu'il était contre le système de tous ces Facebook et tout, et je me rends compte qu'il a une page Facebook avec un faux nom et un faux prénom. Mais ça se passe tellement rapidement, parce qu'une douche, c'est l'histoire de quelques minutes. J'ai pas le temps d'analyser, je fais juste des captures écran avec mon téléphone et je me dis comme ça, j'aurai le temps d'analyser ça tranquillement sur ma pause déjeuner, par exemple, au bureau. Et je fais une enquête, mais vraiment de fourmi, mais pareil, j'ai pas l'idée qu'il me trompe, je me dis juste qu'il se passe quelque chose. Et en fait, un jour, je fais ce fameux numéro et je tombe sur une voix de féminine, très douce, qui a l'air soulagée de mon appel, qui me dit effectivement, je suis sa maîtresse. Je voulais vous appeler, mais je n'ai pas eu le courage. Je suis une ex à lui. Il a repris contact avec moi. Il reprenait souvent contact avec moi, mais j'étais mariée. Et maintenant que je suis divorcée, malheureusement, je suis retombée dans ses bras. Il m'a dit des mots très forts, qu'il aurait dû faire des enfants avec moi. Et là, je suis abasourdie. C'est même pire que la violence. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais je me dis, mais non seulement il est horrible à la maison, mais en plus, c'est un personnage, c'est un prédateur. C'est-à-dire que dire ça à quelqu'un, enfin moi en plus avec Gaëlle qui avait à peine un an, c'est des mots très forts de dire à une autre femme « c'est avec toi que j'aurais voulu avoir des enfants », enfin c'est dingue quoi. Et donc malheureusement elle est retombée sous le charme de Nicolas et donc ils sont amants. Elle comme moi, on a les mêmes textos tous les jours, « j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ci », et en fait leur relation n'est pas idyllique du tout. Alors moi, je suis abasourdie, mais de toute manière, je lui dis qu'il est violent et que je pensais partir, donc qu'il me trompe ou pas, la décision était prise. Moi, je vais porter plainte à la gendarmerie. J'avais déjà fait une main courante quand il y avait eu des violences, notamment à la Saint-Valentin. Sauf que j'avais peur, encore une fois, parce qu'on porte plainte, mais on ne sait pas ce qui se passe après. C'est le grand vide, le grand inconnu. Et là, je découvre en portant plainte, la gendarme me dit « Mais monsieur a déjà un dossier, il a déjà fait l'objet d'une plainte pour violence. » Et là, deuxième choc, c'est-à-dire que je me dis, mais vraiment, je ne connais pas l'homme avec qui j'ai fait deux enfants. L'homme qui a l'air parfois si doux comme un agneau. Comment j'ai pu louper tout ça? Et là, pour une fois dans ma vie, j'ai pas pu faire volte-face, j'ai pas pu faire comme si de rien n'était. Ma patronne n'était pas là ce jour-là, mais ma collègue m'a vu en pleurs. J'ai dû même, je crois, respirer dans un sac tellement... En fait, c'est même pas le fait qu'il ait une maîtresse, parce qu'en fait, je devais m'en douter. Mais c'est le fait qu'il lui ait dit « j'aurais voulu faire des enfants avec toi », etc. Et je pensais qu'une chose à mes deux petits bouts, là, qui avaient 3 ans et 1 an, quoi. Moi, j'écris à l'assistante maternelle de mon fils en disant « est-ce que tu peux aller chercher ma fille à l'école ?» Et elle comprend qu'il se passe quelque chose, en fait. Et je lui dis « garde les enfants, je viendrai plus tard. Mais ne laisse pas Nicolas venir. » Malheureusement, je le retrouve à la maison en chaussons, devant le foot. Et il me dit « t'as passé une bonne journée ». Et je lui dis « non mais tu es fou ». Jamais avant, je n'osais lui dire ça parce que je sais que ça a entraîné de la violence. Tu sais que j'ai eu ta maîtresse au téléphone et tu oses là me dire « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» être en chaussons devant le foot. Je lui dis « mais tu te rends compte que à force de faire des semblants, là, on est... c'est une autre dimension, tu dis à une autre femme que tu l'aimes, donc là il me dit qu'il m'aime. Et là je lui dis c'est trop tard, de toute manière je comptais partir, et en plus j'ai porté plainte. Et donc là, il me retient de nouveau par la violence. Donc j'arrive à m'échapper comme je peux par la porte du jardin, j'escalade le grillage. Heureusement, un voisin arrive à le faire me lâcher, en fait, et moi à partir. Donc j'arrive chez l'assistante maternelle pour dormir. Et je lui envoie un message le lendemain ou le surlendemain. Alors, ses copains me disent « Oh là là, il est très mal, le pauvre. » Comme d'habitude, hein, c'est lui la victime. Moi, je ne rentre plus dans ce jeu-là. Et je lui dis juste « Écoute, je sais que c'est ta maison, mais je ne peux pas vivre dans des valises avec nos deux enfants qui sont petits, qui ont école. » Il accepte par texto que je reprenne les lieux, en fait, avec les enfants. Et là, il me dit « Je veux voir les enfants. » Je me doutais, hein, que ça allait arriver. Je me dis, tiens, il a retrouvé la fille paternelle, mais je le dis pas parce que j'ai pas envie de rentrer en fait dans des conflits. Je me dis, plus vite ça sera fini cette histoire-là, plus vite en fait tu passeras à autre chose. Donc je veux voir les enfants et là, comme c'est par mail, je me dis, attention à ta réponse. Il vit à l'époque soit chez son frère, soit chez ses parents. Je ne peux pas répondre non parce qu'il a l'autorité parentale et je me dis, autant répondre oui, mais du coup, mettre mes conditions. Un samedi ou un dimanche chez tes parents. Donc il me dit oui. Donc là, ça se passe pas trop mal. Moi, j'en profite pour les jours où j'ai pas les enfants pour pleurer, pour encaisser tout ce que je vis. J'ai une somme d'informations à encaisser qui est monstrueuse. Donc, je trouve une location. Il est toujours lui chez ses parents. Donc il a toujours de temps en temps les enfants. Mais ça se passe bien, puisqu'en fait, il est pas tout seul avec eux. Les enfants me disent juste « Oh, papa, il pleure beaucoup ». Donc, j'essaye de leur expliquer sans leur expliquer. J'ai jamais dénigré leur père devant eux. Moi, ma priorité, c'est leur bonheur. On emménage, moi, vraiment, ces premières semaines sans lui, j'ai beau être maman solo avec deux petits bouts, c'est le bonheur, je peux faire ce que je veux. Je peux retrouver la liberté même de téléphoner à ma famille parce que je n'osais même plus téléphoner à mes amis et ma famille quand on était ensemble puisque j'avais l'impression que c'était moi qui étais tout le temps au téléphone alors que ce n'était pas vrai. Quand j'étais avec lui, j'étais une maman complètement différente. J'avais l'impression qu'il fallait que je sois sans faille, sans perfection à ses yeux. Lui, bah, peut pas rester éternellement donc chez ses parents ou son frère, hein, donc décide de chercher un appartement. Donc ça, il me fait part de pareil. Hein, il continue à me faire part de tous ses petits tracas, comme si j'étais toujours son assistante. Donc je suis dans ma location. Le jugement n'a toujours pas eu lieu pour la garde des enfants, mais le système qu'on a mis par mail de se mettre d'accord de temps en temps, etc. Pour l'instant, tient. Et donc il a un appartement tout seul. Et là, j'avoue que je suis plus inquiète. C'est-à-dire qu'avoir les enfants seuls. Je me dis, il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus ses parents, il n'y a plus son frère, il est seul avec eux. Et un jour, je suis appelée par son travail, et ils me disent, on n'a pas de nouvelles de Nicolas. Donc, je leur dis, vous êtes mignon, mais ça fait faire un an qu'on est séparés. Mais je ne sais pas quoi. Le seul numéro que j'ai en tête, c'est le numéro qui était à l'époque de sa maîtresse, et qui est peut-être pour moi sa compagne actuelle, mais comme je ne posais pas de questions, je ne sais pas. Donc je leur donne le numéro que je trouve sur un vieux bout de dossier de procédure. Et effectivement, cette personne me rappelle, donc qui n'est plus sa maîtresse, mais sa compagne, et me dit « Je l'ai fait interner en psychiatrie parce qu'il m'a frappée. » C'est une semaine où mes beaux-parents m'ont dit « Oh là là, Nicolas est hospitalisé. » C'était la semaine des vacances où on devait avoir les enfants, on est triste. Culpabilisation à mort. Et moi, j'avais beaucoup de travail. J'avais beaucoup à faire. Quand on est maman solo, on a peu de temps. Même si ma belle-mère a des très mauvais côtés, c'est une très bonne grand-mère. Donc, je lui décide de lui confier les enfants. Malheureusement, quand je vais les récupérer, je vois la voiture de Nicolas et je comprends qu'il est sorti d'hôpital psychiatrique. Là, je sens que je tombe dans un piège, en fait, quand je viens récupérer les enfants. On dispute, on a des motifs futiles de couches, que j'ai pas mis assez de couches dans le sac de Gaël. Et là, j'ose me rebeller en disant « Je suis pas une vache à lait. Si vous avez voulu Gaël et Anaïs en vacances... vous assurez les repas et puis si j'ai pas mis assez de couches, vous allez en acheter. » Et là, sa mère commence à m'empoigner, donc je me dis, mais elle aussi, il faut être violente, donc c'est un tout petit bout de femme. Et Nicolas m'attrape sans que je le voie, en fait, m'attrape à la gorge et me projette, comme d'habitude, loin. Son père hurle, essaye de me retenir, mes petits bouts sont là devant. C'est l'horreur, je crie, il y a des voisins qui viennent. La violence s'arrête, même si c'est palpable que ça peut recommencer à n'importe quel moment. Les petits bouts pleurent, je les mets dans la voiture, j'appelle les gendarmes. Qui mettent un peu de temps à venir. Donc moi, apparemment, j'ai le visage en sang. Et le gendarme me dit, venez demain porter plainte. Donc je porte plainte une deuxième fois. Moi, cet épisode me marque, puisque là, les enfants sont vraiment très choqués. Le jugement pour la garde a eu lieu plus d'un an après notre séparation. Mais il a été très correct. Il a dit effectivement qu'il était suivi par un psychiatre. et que le psychiatre notait qu'il était dépressif avec des symptômes anxiogènes qui pouvaient le rendre violent. Le juge a estimé qu'il était en pleine capacité d'avoir ses enfants. Il a la garde, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Depuis cet épisode à l'hôpital psychiatrique où tout avait fini en violence, c'est vrai qu'il a repris du poil à la bête. Et j'ai l'impression que ses enfants sont sa priorité. Et j'en suis ravie. Et ça se passe très bien quand il les garde. Et j'en suis ravie parce que moi, le but, ce n'est pas que mes enfants soient coupés de leur père, c'est juste que je voulais qu'ils soient en sécurité avec eux. Et moi, je suis ravie aussi d'avoir poursuivi ma vie, c'est-à-dire de ne pas être restée dans cette histoire, de ne pas être restée dans cette procédure. Je savais que ma vie m'attendait ailleurs, en fait. Et je suis contente, en fait, que ça soit arrivé. Moi, j'avais fait un travail sur moi-même aussi pendant cette période de maman solo. J'avais été voir une kinésiologue sur les conseils d'une amie. Parce que j'en avais marre d'être la fille, la bonne poire. En fait, dans toutes les relations, je voulais sauver le garçon avec qui j'étais pour qu'il aille mieux. Et la preuve en est avec Nicolas, c'est que ça peut faire plus de dégâts. Et je voulais plus être cette fille-là. Je m'étais dit, si tu dois avoir une nouvelle relation, pars sur des bases saines et sois heureuse, toi, Stéphanie. Et moi, je me suis dit, Stéphanie, essaye quand même le peu de temps où tu n'as pas les enfants, essaye de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, tu peux avoir des belles relations aussi amicales. Et puis, je venais justement d'être en contact avec un homme qui s'appelle donc Michel et avec lequel ça se passait très bien. Michel est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il aime voyager, il a l'air gay, il a l'air d'être quelqu'un qui aime sortir, qui aime la vie. Notre premier rendez-vous est parfait au bord de la Loire. Et donc, je le fais rigoler en lui disant « Oh, tu sais, mes enfants, un peu à la façon Florence Foresti, hein, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours des génies. On se marre bien et on se revoit, je crois, le lendemain. » Malheureusement, chacun de notre côté, on doit partir en vacances. Des choses qu'on avait prévues, notamment des mariages, chacun de notre côté. Et là, on continue nos conversations par SMS. Et on se rend compte qu'on a plein de points communs, on attend chacun nos SMS. Enfin, c'est super, quoi. Moi, je lui cache pas du tout la situation avec Nicolas. C'est difficile hein, de dire bah, « j'ai été femme battue ». Il y a le jugement de la famille hein, qui peut parfois vous dire bah, « pourquoi tu l'as pas dit avant ?» Bah, parce que j'avais peur. Mais lui, il le comprend très bien. Il m'avait même proposé de m'accompagner pour déposer ma deuxième plainte. Et on se revoit donc à la fin des vacances. Première nuit, alors là, je retrouve les papillons dans le ventre, les étincelles, les jambes coupées, mais dans le bon sens cette fois-ci. Tout est simple, mais tout est merveilleux. Et donc, par contre, je lui fais part que je suis un peu angoissée, puisque là, il découvre la Stéphanie que je suis avant tout mère de famille, et que là, la rentrée scolaire arrive et que je vais reprendre mon rôle de maman. Donc, je dis aux enfants, j'invite un ami, donc les enfants ne sont pas perturbés, puisque j'ai beaucoup d'amis, voilà, ça m'arrive d'inviter à la maison. Et donc, je me dis, autour d'un apéro, tout passe toujours. Quand on sort des chips avec des enfants, tout passe. Nous, on n'a pas du tout de geste amoureux. Hein. On veut absolument préserver les enfants. Il reste dîner. Et là, je pense que ma grande, Anaïs, se dit, tiens, quand même, le monsieur reste dîner. Et elle lui dit, du haut donc de ses 4 ans, mais tu vas dormir avec ma maman. Et là, Michel lui dit oui. Et elle lui dit, est-ce que tu as emmené ton pyjama? Et il lui dit non. Et elle lui dit, mais tu vas dormir combien de temps avec ma maman? Et là, il la regarde dans les yeux et il lui dit toujours. Et alors, je suis dans un autre monde. Je suis projetée dans une galaxie de bonheur. Là, c'est-à-dire que ça aurait pu me faire peur de me dire, oh bah là, en quelques semaines, il est, Michel, il est sûr de ses sentiments. Mais moi aussi, j'étais sûre. C'est quelqu'un en plus qui est joyeux, qui amène de la joie dans la maison. Il est attentif avec moi, amoureux. Et moi, donc, j'ai une location qui m'a été prêtée. C'est une location qui est spécifique pour les femmes battues. Donc, je ne peux pas y rester éternellement. Et lui, il a son propriétaire qui souhaite récupérer la location. Donc, on est tous les deux, entre guillemets, bientôt à la rue. Mais c'est une évidence pour nous qu'on va habiter ensemble. Et donc, on cherche une location d'une maison aux alentours de Nantes pour nous quatre. Lui commence à me dire, dès les premiers rendez-vous, il m'avait fait comprendre que lui, ça serait vraiment un rêve d'être papa. Et puis, en mars, il est prévu qu'on aille, pendant que les enfants sont chez les grands-parents, il est prévu qu'on aille à Marie-Galante en amoureux. Et là, il me dit, tu sais, j'aimerais, si t'es d'accord, bien sûr, qu'on essaie le bébé à Marie-Galante. Moi, bien sûr, ravie. Et je tombe enceinte de notre petit garçon à Marie-Galante, et qui est né en janvier dernier. Donc, nous sommes les heureux parents d'un petit Alexis. Et là, j'ai eu une grossesse merveilleuse, avec un homme ultra attentionné, que ce soit pour moi ou pour son enfant, qui a toujours dit qu'il essaierait de ne pas faire de différence entre Anaïs Hegel et son fils, ce qui est le cas. J'ai eu un séjour à la maternité parfait. Enfin, vraiment, je redécouvre en fait tout ce que je n'avais pas eu avant et tout ce que j'aurais voulu. Mais là, tout est naturel, j'ai besoin de rien dire. Enfin, c'est merveilleux pour moi et je suis encore sur un petit nuage. Je voulais casser le mythe de la femme battue qui est une personne illettrée ou qui a un mari alcoolique. J'ai fait des études. Nicolas vient d'une famille classe moyenne très respectueuse. Voilà, on ne rentre pas du tout dans les cases et pourtant, ça arrive partout. Il faut être là, il faut voir les signes pour les gens qui ont un doute. Il ne faut pas hésiter à en parler. Moi, je pense que les gens auraient plus insisté. Je serais peut-être partie plus vite. Je leur aurais dit que je ne pouvais pas partir physiquement ou par peur. Il ne faut pas avoir peur, en fait, d'insister. Même si on a l'impression qu'on s'introduit dans la vie des gens, il ne faut pas avoir peur. Si on a un doute, c'est que c'est peut-être vrai. C'était le message que je voulais faire passer, parce que je sais que malheureusement, il y a beaucoup de femmes comme d'hommes qui sont victimes de violences.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluza qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast et parlez-en autour de vous. Si vous vivez en ce moment ce qu'a vécu Stéphanie, si vous êtes victime de violences, n'hésitez pas à appeler le 3919. C'est anonyme et c'est gratuit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.